Collective, l'émission qui explore les questions féministes. Tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, à 18h, sur Fréquence 7.
Le monde est en train de se recomposer avec des femmes qui osent dire stop ou qui osent dire je veux une vie égale à toi.
Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder.
Salut et bienvenue. C'est la rentrée pour la collective et on a commencé la saison avec une fake news. Nous avons menti dès le générique parce que nos horaires de diffusion ont changé. On passe à une émission tous les deux mois. Alors concrètement, ça veut dire que vous entendez l'émission inédite le deuxième jeudi du mois à 18h. Vous avez le temps de dire à vos amis et à votre famille à quel point l'émission est formidable et qu'elles peuvent l'écouter en rediffusion qui a lieu du coup le mois suivant, toujours le deuxième jeudi du mois à 18h. Une nouvelle émission, un mois sur deux. Ce qui nous laisse le temps de retrouver Vanessa et de refaire le générique d'ici la prochaine émission. Car oui, pour le moment, notre chère bergère est toujours dans les montagnes. On l'embrasse, mais si elle pouvait rentrer maintenant, ça serait quand même bien. Du coup, aujourd'hui, côté collectif, il y a Hello.
Salut.
Salut
Alizé.
Salut. Et donc, pas de Vanessa, mais trois invités de marque aujourd'hui. Bonjour Ragna.
Bonjour.
Nouche.
Salut.
Et Vic.
Salut.
Et à la technique, ce mois-ci, c'est Sylvain. Salut Sylvain.
Salut, salut.
Et petite pensée pour Clara, qui aurait dû être des nôtres, mais qui ne peut pas aujourd'hui. Si Ragna, Anouche et Vic sont avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler prévention des violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Nos trois invités font partie de la BLAR, un acronyme mystérieux qui signifie, Anouche,
la Brigade du Love Anti-Relou.
Alors si vous ne connaissez pas encore la BLAR, on vous laisse encore gamberger quelques minutes et on fait un petit détour par les mouvements sociaux qui ont agité la rentrée.
Tout comme pas mal de monde en France, le collectif féministe du 8 mars a participé en cette rentrée au mouvement Bloquons tout du 10 septembre et à la grève intersyndicale du 18. Nous n'étions pas seuls puisqu'il y avait environ 1000 personnes le 10 et entre 1500 et 2000 à la manif du 18 sur Aubenas. Et bon nombre de collectifs féministes ou LGBTQIA+, appelaient à participer à ces mouvements. Alors pourquoi c'était important d'y être en tant que féministe?
On va le faire rapide, mais avec les budgets d'austérité, et notamment ceux proposés par nos gouvernements éclairs, l'austérité touche d'abord les plus précaires. On va prendre juste quelques exemples du côté du soin et de la santé. Les femmes représentent 78% du personnel de la fonction publique hospitalière et sont encore plus majoritaires si on regarde les postes moins qualifiés. Ce sont donc elles qui compensent la casse de l'hôpital public, le manque de personnel, les conditions de travail dégradées, etc.
Aussi, dans son budget, Bayrou prévoyait jusqu'à 1,5 milliard d'euros d'économies sur les aides aux personnes handicapées. On sait que ces personnes sont déjà vulnérables et qui doivent déjà se battre pour accéder au moindre de leurs droits.
Et en l'absence de modes de garde accessibles et satisfaisants, de structures de soins, de moyens d'accompagnement, à la fois pour les enfants et pour les personnes dépendantes, ce sont aussi majoritairement les femmes qui compensent.
Et on craint aussi la remise en cause de la gratuité et de l'accès à la contraception, aux interruptions volontaires de grossesse, aux procréations médicalement assistées et aux transitions.
En 50 ans, ce sont 1000 maternités qui ont fermé, et la France connaît la plus grande hausse du taux de mortalité infantile en Europe.
Un autre exemple plus local aussi sur la question de l'hébergement d'urgence, et parce que l'austérité se répercute aussi sur les collectivités locales, le dernier rapport du réseau Éducation sans frontières et des associations de terrain font état d'un manque alarmant de places d'hébergement d'urgence sur le bassin albenacien. Il y a eu un taux de remplissage du 115 de 130%. De nombreuses femmes et familles avec enfants, pour la plupart, ont dû passer au moins une nuit à la rue l'année dernière. Donc ça s'explique parce que jusqu'ici, les femmes enceintes et familles avec enfants, même si les places d'hébergement d'urgence étaient toutes allouées, il y avait la possibilité de débloquer d'autres places et de les héberger pour une nuit, quoi qu'il en coûte. Et ce budget-là a été... c'est plus en cours, ce qui fait que quand les places sont allouées, elles sont allouées. Et dans un même temps, la demande pour ce nombre de places d'hébergement d'urgence ne fait qu'augmenter à cause de l'inflation et de la précarisation ambiante. On écoute Mathilde Larère, historienne des luttes, qui s'imagine un instant aux manettes d'un ministère.
Non mais déjà, j'irai chercher avec les dents du fric, parce qu'il faut des budgets, il faut aider les associations. Enfin, il y a tout un tas de trucs, les affichages, on va lutter, c'est bien, enfin, c'est mieux que pas, hein, mais de fait, il y a un moment où l'absence d'argent pose un certain nombre de problèmes.
Alors justement, du fric...
Et puis, je ferai sauter la plupart des lois, parce que toutes ces lois libérales, Macron, etc., on sait très bien qu'elles ont des conséquences bien pires pour les femmes, donc on ne peut pas d'un côté les soutenir et de l'autre dire qu'on soutient la cause des femmes.
Ah, une coupure un peu brutale. Il est important de rappeler, comme le fait Mathilde Larère, que même en temps de crise budgétaire, il est toujours question de choix et qu'on peut, par exemple, choisir de plutôt taxer les plus riches et les grosses entreprises. Face à un système et des décisions politiques qui nous fragilisent, il est légitime de penser d'abord à comment on va s'en sortir soi-même individuellement. Mais s'organiser collectivement, mutualiser nos forces, ça permet non seulement de construire un rapport de force pour enrayer la casse de nos conquis sociaux, mais aussi de créer un maillage solidaire qui permet de limiter les dégâts dès aujourd'hui. Les cantines solidaires, les gardes partagées sont des exemples concrets de ça. Et puis, ce sont aussi des espaces où on ressent de la joie, où on nourrit des espoirs, où on élabore des plans pour la suite. On en a besoin. Et ce n'est pas Hélène Giannichini qui nous dira le contraire.
La camaraderie est une expression politique du lien entre les individus. Plus que les qualités de chacune, elle met en valeur ce que permettent la poursuite de buts communs et le partage d'idées. Elle insiste sur ce qui nous rend semblables et qui nous lie. La camaraderie est précieuse parce qu'elle suspend pour un temps les questions d'identité comprises comme seul facteur de définition d'un individu. Pour agir, la question n'est pas de savoir ce qui fait notre absolue spécificité, mais bien de se concentrer sur ce qui nous rend semblables à d'autres. La question de l'identité est cruciale, mais comporte aussi des pièges si on s'y arrête. Le capitalisme se nourrit de notre quête de singularité, de notre goût contemporain pour l'hyper-individualité, le parcours personnel. Il a besoin de créer des individus, des atomes, pour empêcher que des groupes ne se forment.
La volonté de prendre en charge les choses collectivement, au-delà de nos cercles amicaux et familiaux, c'est aussi ce qui a permis la création de la Blare. Alors on s'écoute une musique et on discute enfin avec nos invités.
In her shoes, could you
preach water and drink Western lies. Expect another to speak for your bloodline. That's not mine. But anyway, I focus on the trees. Break bread with the G's. My family always eats with me. Je ne peux pas le faire si je m'assois. So I go get it. Go get it, go get it, and come back for more. See, the world is your cause, so I go get it. Go get it, go get it, and come back with reward.
C'était Obirine de Divine Angèle. Alors, est-ce que je peux vous laisser vous présenter ?
Oui, bonjour, c'est Ragna. Je fais partie de la BLAR, donc de la brigade anti-relou, depuis ses origines, il y a un an et demi. Et de CARUD aussi, c'est le centre d'accueil et d'accompagnement des usagères de drogue. À toi.
Bonjour, moi c'est Vic, je suis une personne queer, membre de la BLAR comme Ragna depuis ses origines. Également, je fais partie de l'association Théâtre en cours, qui est une association culturelle du bassin d'Aubenas.
Et moi c'est Nouche, comme Ragna et Vic, je fais partie de la BLAR, et également du CARUD, et également de Théâtre en cours.
Merci et bienvenue avec nous sur le plateau de la collective. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut nous parler un petit peu de comment s'est créée la BLAR ?
La BLAR, elle s'est créée il y a un an et demi. Dans l'association de théâtre en cours, on avait des soucis au milieu festif, ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes. On avait déjà mis des choses en place, comme des affiches qui étaient censées te sensibiliser. Mais après un événement qui est arrivé, on se dit, là, ça suffit plus. Il faut qu'on réagisse plus. Et du coup, on a fait appel à d'autres associations et collectives d'Aubenas et de Sud-Ardèche. Parce que c'est assez lourd à porter. On ne voulait pas non plus s'approprier cette brigade de lave anti-relou. Et on a fait appel à plusieurs associations et aussi une personne qui nous a guidés un petit peu. On se réunit et on a monté un chouette projet, je pense.
Et alors concrètement, c'est quoi une brigade du love anti-relou, Nouche ?
Eh bien, concrètement, c'est des personnes qui, pendant des événements plutôt culturels, du coup, festifs, on est visible, on a des guirlandes accrochées à nous, on circule un peu sur le site et du coup, on est un peu là... avoir une petite veille sur qu'il n'y ait pas des comportements oppressifs ou relous de la part de personnes. Et aussi répondre à des questions, s'il y a des personnes qui ont des questions un peu sur, sur ces sujets-là, quoi. Et donc, et on a aussi ce qu'on appelle une safe zone, donc un espace où les personnes, si elles le souhaitent et en ont besoin, peuvent venir pour se reposer et... trouver quelqu'un pour qui discuter s'il y a besoin, ou juste faire une micro-sieste parce que il est minuit et qu'on a un petit coup de mou, c'est possible aussi. Et on a aussi un stand de réduction des risques, du coup, où c'est possible de trouver du matos pour les usages de drogue, et aussi du matos de santé sexuelle, et de la documentation, et aussi des petits fly, des fanzines, ce genre de choses, quoi. Et des personnes, qui... un peu des notions et qui peuvent aussi répondre à des questions sur ces sujets-là.
On va revenir un peu en détail sur votre fonctionnement, etc., mais peut-être préciser ce qu'on entend par violence sexiste et sexuelle, et notamment en milieu festif. Est-ce que quelqu'un...
Ça peut être une remarque, ça peut être... Il y a tellement de situations. Ça peut être une violence physique, verbale, un comportement, comme elle a dit Nouche, oppressif, et, où on se sent mal. En fait, on n'a pas tous les mêmes notions par rapport à la violence. Ça dépend de nos expériences qu'on a fait nous-mêmes. Et après, effectivement, en soirée, en festival, ça peut... Il y a des usagers de drogue, alors quand on parle de drogue, c'est vraiment dans le sens large, c'est beaucoup de l'alcool. Et du coup, ça peut amener à un comportement désagréable pour des personnes en face. Au bar, dans les toilettes, enfin, plein d'endroits.
Si je peux juste permettre de compléter, c'est que du coup, quand on est alcoolisé ou autre, en fait, des fois c'est plus difficile de... Bon, déjà, les notions de consentement quand on est sobre, c'est pas toujours quelque chose qui est vraiment très acquis. Et encore plus, du coup, quand on a pris des substances qui modifient notre comportement, c'est là où on peut remarquer que dans les milieux festifs, il y a une recrudescence aussi de ces comportements-là. Et c'est aussi la raison de notre présence en milieu festif.
Et si je peux me permettre de compléter, comme ça c'est vraiment complet, on se dit aussi que en tant que bénévole sur nos créneaux blar, c'est bien qu'on ne consomme pas avant et pendant. Voilà.
Merci pour ces explications. On va creuser un petit peu plus après. En attendant, on écoute un extrait de la manière dont la blar se présente lors d'un événement.
Bonsoir. C'est un petit mot pour vous expliquer pourquoi sur le festival vous allez croiser des gens avec des guirlandes comme ça. C'est la BLAR, c'est la Brigade du Love. C'est un dispositif qui essaie de veiller à ce que le festival soit un bon moment pour tout le monde. Donc on rappelle que les propos et les comportements violents ou offensants, par exemple racistes, sexistes, LGBTQIA+, homophobes, ou quels qu'ils soient, ils n'ont pas leur place ici. Si vous en ressentez le besoin ou que vous êtes témoin de situations désagréables, vous pouvez nous solliciter, ainsi que des bénévoles du bar ou de l'accueil, par exemple. Sur la terrasse, là-haut, vous trouverez le stand de prévention avec plein de ressources et d'informations. Et on est là pour discuter aussi si tout ça vous interpelle. Donc prenez soin de vous, prenez soin des autres et bon festival. Ouais.
Donc, est-ce que, après l'extrait qu'on a entendu, est-ce que vous nous avez un petit peu dit avant, est-ce qu'on pourrait vous définir comme étant un service d'ordre ?
Non. non, ça, c'est pas l'idée. alors, c'est plutôt... c'est dur à expliquer parce qu'un service d'ordre, moi, j'ai tout de suite une uniforme et la police devant les yeux. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de prendre soin vraiment dans le sens que on reste assez discret en fait et discrète. On a nos petites guirlandes pour quand même être visible, mais l'idée c'est de ne pas forcément surveiller les gens. L'idée c'est de être visible pour que les gens puissent venir nous parler quand ils remarquent. Alors là, du coup, on compte aussi sur la vigilance de tout le monde, toutes et tous. Je ne sais pas si tu veux ou voulez compléter.
On fait pas la fouille de sac, on sort pas les couteaux à l'entrée des festivals, ce genre de trucs, non, pas du tout. Enfin, du coup, les services d'ordre, ils ont pas forcément, ils ont même rarement ce truc de sensibilisation à toutes ces questions, que ce soit les questions de consentement, les questions aussi.
Ils sont pas formés.
Déjà, pas trop de formation là-dessus, même si sur une formation qu'on a fait, il y avait une personne qui faisait partie d'un service d'ordre qui était là, mais en tout cas, sur les questions. Transidentité, LGBT, de ce genre de trucs, souvent c'est des personnes qui sont pas trop... Enfin, on avait l'exemple de service d'ordre qui... la personne, elle réassignait les personnes dans la file de tu fais pipi chez les gars ou tu fais pipi chez les garçons, et si ton allure, elle est mec ou meuf, du coup, faut que t'ailles dans la ligne qu'on t'a assignée, enfin, que le service d'ordre t'assigne, alors que...
Il avait même demandé la carte d'identité de la personne. C'était assez violent. Ça peut être une violence, effectivement, où nous, en tant que blar, on sera plus vigilants.
Sous prétexte de sécurité, du coup.
C'est ça, ouais. Genre, tu ressembles à un gars, du coup, tu peux pas aller chez les meufs. Bon, voilà.
Donc ça, on fait pas.
Pas du tout.
Et pour prolonger là-dessus, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez été formée, les techniques que vous utilisez quand vous intervenez?
Eh ben oui, du coup, avec Ragna, on a participé à une formation qui était donnée par l'association Keep Smiling, qui est une association en autosupport de réduction des risques sur Lyon. Du coup, eux, ils viennent plutôt du milieu...
Je t'interromps, autosupport, tu peux nous...
Autosupport, c'est les personnes... Pour le coup, c'est... Alors, du coup, c'est des gens qui viennent du milieu teuf et c'est des personnes qui consomment. Et du coup, c'est des... au départ, c'est des personnes qui sont consommatrices de drogue qui mettent en place des espaces de réduction des risques pour réduire les risques autour des usages. Et du coup, ça s'élargit aussi à toutes ces questions de... Du coup, de... Aussi, consentement et ce... Enfin... Toutes les questions aussi des violences sexistes, sexuelles et de genre qu'il peut y avoir en milieu festif. Et donc autosupport, c'est pas des gens qui ont étudié et qui viennent dire qu'est-ce qu'il faut faire, plutôt des gens qui vivent la chose au premier degré, quoi. Ça se comprend. Voilà.
Oui, oui.
Et du coup, cette asso-là, elle proposait des formations auxquelles on a pu assister avec Ragna, comme on est au bénévole au Carut d'Aubenas, qui est le centre d'accueil d'accompagnement aux réductions des risques pour les usagers et usagères de drogue. Et du coup, on a pu y participer. Et du coup, c'était trois modules trois jours de formation là-dessus, sur la RDR, usage des drogues, et aussi sur du coup, les violences sexistes et sexuelles et la prévention autour de ça.
En milieu festif.
Et du coup, nous, on a fait cette formation. Et puis, du coup, après ça, on avait fait une petite réunion pour essayer de... un peu rendre ce qu'on avait acquis comme à savoir aux personnes qui font partie de la BLAR à ce moment-là. Et ça continue parce que du coup, il y a toujours des situations qui arrivent et on continue toujours à s'échanger là-dessus, quoi. Et du coup, dans notre orga, avant un événement, on essaie de se réunir pour un peu s'organiser de qui fait quoi et qui est dispo et tout ça, et intégrer les personnes qui ont envie de se rejoindre et du coup d'expliquer un peu en quoi ça consiste concrètement dans... le faire pendant l'événement. Et après chaque événement, on essaie aussi, pas forcément le lendemain, mais en tout cas dans les semaines qui suivent, de refaire une rencontre où on peut discuter de les situations qu'on a vécues et les trucs qui sont bien passés. Ok, cool, et du coup, comment on a fait et pourquoi est-ce que ça s'est bien passé? Et puis les choses où c'était plus compliqué, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois?
Et si vous deviez résumer un peu la philosophie, le mot d'ordre de votre fonctionnement pour désamorcer des situations, ça serait quoi? Vic, moi, peut-être, tu vois.
Oui, vas-y.
Moi, je dirais bienveillance. Une notion de communication non violente, surtout.
Pas de jugement. Essayer de pas juger.
Oui.
On n'engueule pas les gens qui font des bêtises.
Non, on va éviter d'être les relous des relous, si je puis dire.
Après, des fois, on reste des êtres humains et des fois, ça arrive qu'on s'énerve quand même. Ça peut arriver.
Bien sûr, c'est pour ça qu'en général, sur les soirées, on essaye d'être assez pour que, sur des situations qui peuvent être particulières, si la personne qui voit la situation, elle se dit « Ah, moi, ça me fait écho à quelque chose », et où elle se sentirait de, justement... pas aller sur une communication non violente, mais être très entraîné dans le problème. Voilà, on se relaye entre nous.
Et du coup, d'ailleurs, c'est quoi un petit peu les autres règles de fonctionnement entre vous, les choses auxquelles vous faites attention?
On veut prendre soin de nous, déjà. C'est pas un boulot, quoi. C'est vraiment de... comme Vicky l'a déjà dit, je rebondis là-dessus, que on a tous nos expériences aussi, et du coup on se préserve nous aussi, donc on fait régulièrement quand même des checks les uns les autres. On n'est jamais toutes seules, on est toujours au minimum deux dans les créneaux. Après ça dépend de la taille de l'événement. Au dernier théâtre en cours, on était quatre par créneau, mais on se balade jamais toutes seules, voilà. Pas juger, justement, comme on avait déjà dit, d'essayer de rester calme. Et je ne sais pas si vous voulez compléter.
Et sur certaines situations, des fois, on fait aussi appel à l'orga. Parce que du coup, nous, on est là, on vient un peu apporter cette dynamique-là dans l'événement, mais du coup, on n'est pas non plus responsable de l'événement et de ce qui s'y passe, du coup. Plutôt, on essaie de faire faciliter les choses, mais que des fois, à des moments donnés, d'avoir de l'orga qui vient appuyer une décision ou un choix, ça, c'est important.
Et puis de sensibiliser aussi des copains et des copines des festivaliers. Donc, c'est pas que à nous de... Bon, encore une fois, on n'est pas un service d'ordre. C'est plutôt sensibiliser. C'est pour ça qu'on continue quand même des affiches, on continue des annonces régulièrement pendant l'événement.
Au micro, ouais.
Oui. On a un numéro de téléphone. On va en parler, je pense. Où on est joignable, du coup, qu'il y a toujours quelqu'un dans l'équipe. La safe zone, voilà.
À la safe zone, par exemple, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu plus précisément ce que ça veut dire ?
Alors nous, on a décidé de ne de faire une safe zone, enfin si la place le permet, parce que ça c'est pas toujours si ça c'est toujours fait pour l'instant, mais c'est pas toujours simple. La safe zone, c'est comme elle a dit Nouche tout à l'heure, c'est vraiment pour pouvoir se reposer après soit juste on est fatigué, ou aussi après une mauvaise expérience. En général, c'est à côté de stand de réduction de risque. Du coup, il y a toujours quelqu'un qui peut nous accueillir, enfin, accueillir la personne qui aimerait se reposer. Nous, on a décidé dans nos événements de faire ça aussi une zone no conso, enfin, ni de l'alcool, ni de la club, rien. C'est vraiment pour se reposer. Il y a des bouquins, il y a...
Un gros canapé.
Et un gros canapé, il y a des livres, il y a quoi, comment on dit, pour manger là.
Un petit snacking.
Ouais, je voulais dire un mot, mais en fait, je le connais pas.
Se ravitailler.
Voilà, c'est ça, merci.
De l'eau chaude avec du thé quand on pense à remplir la
bouilloire. Des tisanes, voilà, des tisanes. Enfin, un espace repos, quoi.
Et qu'est-ce que vous constatez ou vous aimeriez constater quand il y a l'annonce d'une blare dans un événement ? Que ça soit annoncé dans les flyers ou quand vous l'annoncez dans l'événement. Qu'est-ce que ça change, en fait ? Le fait qu'on sache qu'il va y avoir une blare.
J'ai l'impression que les gens sont assez contents en général. Enfin, on a plutôt, on l'entendait dans l'extrait où il y a Clémentine qui présente du coup ce que c'est la blare sur une annonce micro. Et puis, les gens plutôt sont assez contents, applaudissent et tout ça. Du coup, j'ose espérer, on ose espérer que du coup il y ait des gens qui se disent, ok, ici il faut pas déconner.
Oui, c'est vrai qu'on a toujours eu des bons retours. Enfin, moi je me rappelle pas un événement où il y a des gens qui disent, ah non, il y a la blare, je vais pas pouvoir être relou ce soir.
Moi j'ai eu si on a le temps pour une micro anecdote, quand je fais la dernière fois le blare, c'était j'ai rencontré deux messieurs qui me sont questionnés sur ma guirlande sur la tête. Et qui trouvait ça, enfin, j'avais l'impression qu'ils comprenaient pas trop, ils trouvaient ça plutôt ridicule, etc. Et en discutant avec eux pendant un quart d'heure, 20 minutes, ils étaient là, en fait, c'est génial, c'est super, merci d'être là. Nous, on a déconné quand on était jeunes, on était cons. Enfin, et du coup, ils nous ont expliqué un peu. Et ça, c'est des personnes plus âgées que nous, hein. Toujours des jeunes, si jamais ils nous entendent. Mais du coup, ouais, c'était assez intéressant comme expérience parce que donc pendant ça les a convaincus de la nécessité de la brigade anti-relou.
Est-ce que j'ai l'impression à vous entendre que l'idée c'est un peu d'instiller cette idée qu'il faut qu'on soit attentif collectivement, pas uniquement les personnes qui ont les guirlandes, mais que ça installe un climat qui va vers ça, quoi, vers plus de...
Carrément de la sensibilisation à ces questions-là et ouais, à fond.
Et sur le mode de fonctionnement, moi j'avais encore une question sur la manière dont vous intervenez concrètement. Est-ce que c'est la personne qui se sent victime de quelque chose qui vient vous solliciter ? Est-ce que vous y allez de vous-même quand vous constatez quelque chose qui ne va pas ?
Il y a plein de cas de figure, oui, ça peut être ça, la personne ou les personnes qui viennent. Des personnes, par exemple, qui vont voir une situation problématique, qui vont venir nous voir pour dire, est-ce que vous pouvez venir nous apporter votre aide ? Ouais, il y a plusieurs cas de figure. Mais parfois, nous, quand on constate directement, on y va aussi.
On y va, ou au moins on observe et on voit si... On a une vigilance, quoi, on sait. Puis, il y a aussi des personnes, on sait qu'à chaque événement... Ça va quaquer parce que on est dans un petit, on est dans un territoire assez petit où vite on fréquente un peu tous les mêmes endroits et du coup vite on se connaît tous un peu et du coup sans être dans de la stigmatisation, mais voilà, on sait que un tel ou une telle, avec dès que ça tease, c'est compliqué. Et donc on sait que cette personne-là, à partir de telle heure, c'est cool si on a un petit œil, ou à s'assurer que est-ce que la personne est venue seule ou est-ce qu'elle est avec des amis. Oui, ça peut dépendre. Ça dépend un peu des situations, comme disait Vic, quoi.
C'est là où je peux dire. On peut même appuyer sur le fait qu'on n'est pas une brigade d'ordre. C'est que, comme dit Nouche, il y a ces personnes que on connaît parce que les événements en général sont assez petits, donc tout le monde se connaît. On n'est pas là pour dire toi non, on t'interdit, parce qu'on sait que plusieurs fois où on va te virer. Voilà.
Par contre, ça peut être une stratégie, entre guillemets, d'aller voir lui-même ou elle-même, parce que relou, point E, enfin, c'est pas que genré. Et puis, on peut discuter soit avec il, elle, pour dire, écoute, est-ce que t'as prévu de beaucoup, beaucoup boire, beaucoup rentrer tard, etc. Est-ce que t'as prévu de dormir sur place, parce qu'on a aussi cette vigilance. Dans les derniers événements, on est parti avec des études de test sur le parking pour que les gens ils se rendent compte qu'ils sont trop bu ou pas assez bu, parce qu'on...
Pas assez bu, pardon.
qu'ils sont encore capables de conduire. Parce qu'on a cette idée aussi en tête d'être vigilant par rapport à ça. Comme ça peut être la réaction d'aller voir les amis de cette personne. Il y a plein de stratégies.
Oui. En fait, c'est pas que anti-relou, c'est aussi... s'assurer que les personnes soient bien en général. Enfin, on n'est pas que sur de la prévention autour des violences sexuelles, finalement.
C'est vraiment la réduction de risque dans son sens large.
Et suite à vos interventions, et surtout si vous avez l'impression vous avez des questions justement sur votre intervention dans ce cas particulier. Qu'est-ce que vous en faites après? Comment ça se passe? Ce que vous avez vécu lors des événements? Est-ce que vous en reparlez après?
Ouais, carrément. Du coup, on essaie après chaque événement de se réunir, quand c'est possible, avec les personnes qui étaient présentes, et de se refaire un petit briefing de comment ça s'est passé, quelles sont les situations qu'on a rencontrées.
Même entre les créneaux, essaie de faire ça.
Et oui, et entre chaque créneau, du coup, entre chaque changement de shift pendant l'événement, on se retrouve un quart d'heure avant et on se partage un peu les infos qu'il y a à se partager. On se check sur comment on se sent, aussi est-ce qu'on se sent de faire ce shift-là. On se check, on communique énormément, quoi. On communique beaucoup et en plus, on a... beaucoup à être sur... on a un petit groupe sur le téléphone où on se donne aussi des news. On se donne des news aussi en instant T.
Et tu parlais tout à l'heure du fait que c'est les mêmes personnes qui reviennent d'événement en événement, etc. Est-ce que ça a des incidences particulières sur la manière dont vous agissez, vous organisez, le fait que finalement vous connaissez un peu les gens, que les gens vous connaissent, vous repèrent d'un événement sur l'autre? Est-ce que ça a des incidences positives ou négatives de ne pas être dans des grosses agglomérations où finalement il y a un peu un truc d'anonymat?
Bon, on se donne des informations, du coup, sur des personnes. Ça évite qu'on ait surprise.
Ouais.
C'est plutôt un plus, connaître le territoire.
Oui, je trouve que c'est un plus de... c'est ça, t'as pas de surprise. Et du coup, tu sais que cette situation peut t'arriver. Et en plus, tu sais que là, t'es à plusieurs pour gérer ça, quoi. Et c'est pas juste... l'orga qui va gérer ça alors qu'elle a un milliard d'autres trucs à gérer aussi à ce moment-là. Enfin, elle peut être amenée à le gérer à un moment donné, l'orga, mais du coup, là, il y a un truc un peu avant de... on a une petite vigilance et puis une petite veille là-dessus. Et des fois, ça se désamorce très bien. Et ça va... Là, la situation ne dégénère pas du tout. Enfin, on a des exemples de... En fait, la personne, on est allé la voir et puis... ce soir, je suis tranquille. Et du coup, ok, bon, c'est tranquille, c'est cool.
C'est pareil, c'est la communication, en fait.
Et un peu sur les limites de vos de votre action, vous parliez du moment où vous allez voir l'équipe du festival. Est-ce que, par exemple, c'est, à partir du moment où il y a de la violence physique qui rentre en jeu, là, vous dites que ça dépasse le cadre de votre intervention, quand vous sentez en danger, quel est un peu le cadre que vous donnez
De toute façon, en ce moment, dans les blars qu'on a intervenu, il y avait déjà toujours quelqu'un de l'Orga aussi dans la brigade anti-relou, de l'AV anti-relou, qui est même référent, qui était même référent ou référente à chaque fois. Donc ça simplifiait la communication avec l'Orga tout court. Et moi, personnellement, je n'ai pas encore vécu des situations de violence physique.
À ma connaissance, non plus. Mais là, de mémoire, le dernier événement qui était Strasse et Truelle, ils avaient une équipe, pour le coup, de...
Oui, un peu service d'ordre en plus.
De vigile, non, comment dire ?
De sécurité.
De sécurité, voilà. Donc après aussi, dans ces moments-là, c'est que nous, on peut faire le lien avec eux. Peut-être éventuellement un jour avec la police, mais après, ça dépendra. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas arrivé.
Tant mieux.
Tant mieux.
Tant mieux.
Et c'est aussi peut-être, ce que permet la BLAR, c'est peut-être aussi de faire de la désescalade sur des situations qui auraient pu aller beaucoup plus loin. Et donc ça...
Exactement, ouais.
Et du coup, même s'il y a un service d'ordre, l'important, ce qu'on avait déjà dit plusieurs fois, de communiquer avec eux, elles, avant, pour savoir à quel moment ils interviennent, au sein de nos limites à nous, et de communiquer avec eux, en fait.
Bon, en tout cas, ne pas acculer les personnes a l'air d'être plutôt une méthode porteuse, jusque-là. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a quelque chose, a envie d'évoquer quelque chose dont on n'a pas parlé ?
On était vraiment nombreux à... ce qu'on voulait... Je ne l'ai pas dit, je pense, mais je voulais dire déjà quand même merci à tous les collectifs et assos qui sont venus pour faire cette brigade de l'avant-tirelou, pour se mettre à point par rapport à ça, parce que ça demandait quand même pas mal d'investissement. Et il y en avait vraiment beaucoup. On était une 10-15 de collectifs différents et d'assos différentes, ce qui montre aussi qu'il y a quand même un réel besoin aussi. Pour l'instant, les événements, on était toujours assez de plusieurs collectifs, du coup, à être là. Parce que c'est pas le plus facile du créneau à faire, pour le coup, en tant que bénévole.
On se disait qu'en préparant l'émission ensemble, qu'il y avait quelque chose d'important à rappeler, que les milieux dans lesquels on évolue, qui se disent culturels, militants, ne sont absolument pas exempts de violences, qu'elles soient sexistes ou sexuelles, ou plus largement. Mais que là où on peut faire une différence, c'est sur le fait de décider de prendre en charge ces questions-là, quoi.
De vouloir réagir, ouais.
Oui, et du coup, s'il y a des collectifs qui ne sont pas encore saisis de cette question, mais qui auraient envie de s'en saisir et qui se disent « Ah tiens, il y a quelque chose qui se met en place », pas hésiter à nous contacter, avec grand plaisir.
Alors,
justement, on est nombreux et mieux c'est, quoi.
Si, que ce soit pour organiser un événement et faire venir la BLAR ou pour vous rejoindre, comment on procède ?
Alors, pour l'instant, on n'a qu'un numéro de téléphone, donc on peut nous contacter au numéro de téléphone.
Ok, on le mettra sur la page replay.
Et puis à un moment, on aura peut-être un mail. On sera un peu mieux organisé.
On peut le donner peut-être déjà ici, le numéro de téléphone ?
Ouais, carrément.
Tu veux que je le donne ? Alors, c'est le 07 49 80 19 96.
07
49 80 19 96.
Bon, non, merci.
Merci beaucoup, merci à vous d'être venus. C'était super intéressant de vous écouter. On arrive à la fin de l'émission. On va se quitter là-dessus. On vous annonce juste une date qui va très vite être périmée, mais pour la première diffusion, ça marche quand même. Mardi 14 octobre à 18h, c'est la réunion de rentrée du collectif du 8 mars. Ça se passe au Palabre. Vous êtes tous et toutes les bienvenues à partir du moment où vous n'êtes pas un homme cisgenre, puisque l'organisation est en mixité choisie. Et l'idée, c'est de se rencontrer, de boire un verre, une tisane, n'importe quoi, et de manger un bout ensemble et de discuter de ce qu'on fait, de ce qui est possible de faire quand on a envie de rejoindre le collectif, aussi de démystifier un peu des choses, de vous montrer que ça peut être aussi des petites tâches, des petites actions qui rendent vraiment service. Et Ragna me rappelle à juste titre qu'il y aura une garderie, donc si vous avez des enfants avec vous, pas d'inquiétude, on pourra s'en occuper pendant le temps de cette rencontre. On vous dit à dans 2 mois, ou 1 mois si vous écoutez la rediffusion.
Et merci à tout le monde, c'était super.
Merci aussi.
Merci à vous.
Merci.
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Qui va faire le ménage? Et la réponse des féministes est très bien selon moi. Elle dit « Mais la révolution fera le ménage ».